le mardi dans la deuxième partie de l'EM. Vous les attendez, c'est un rendez-vous désormais consacré. Ce sont les marottes, les sujets qu'on aime, qu'on veut partager avec vous. Des idées sorties dans le Finistère aussi. Alors aujourd'hui au micro, nous avons Marie Cultive, de retour parmi nous, bien au frais au jardin. Christophe Casazza et sa chronique Cinébouffe. Marine Chanourdi et du théâtre à tout âge. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour Véronique.
Marie, on commence par toi. Tu nous cultives dans l'air des jardins. Et oui, même en novembre et presque en décembre, il y a encore à faire au jardin ?
Oui, nous sommes en pleine période de plantation là en ce moment. La terre s'est refroidie, c'est plutôt meuble et puis le sol est prêt à accueillir une nouvelle haie. Aujourd'hui, je vous fais planter une haie.
Oui, parce qu'on ne peut pas planter n'importe quoi en novembre, on est d'accord, on ne va pas planter maintenant des choux, enfin je ne sais pas encore quoi.
Ah non, c'est pas la saison, c'est pas la meilleure saison du potager. Effectivement, c'est la meilleure saison pour tout ce qui va être fruitier, pour tout ce qui va être plein de haies et puis notamment les rosiers aussi.
Ah oui, d'accord. Bon, alors là, on ne va pas mettre de rosier dans sa haie, si ? Non ?
On pourrait. C'est pas la plante la plus indiquée pour effectuer une haie, mais ça pourrait.
Et pourquoi on fait une haie, d'ailleurs ?
Eh bien, la raison pour laquelle on va planter une haie, ça va être pour se masquer de ses voisins. Ça, c'est la première raison pour laquelle les gens me demandent de planter une haie. Pour proposer un gîte pour les animaux. Notamment les oiseaux, les insectes, pour avoir un joli tableau végétal agréable à contempler. Ça nous changera des claustrés du grillage.
Ah bah c'est clair.
Et puis pour avoir éventuellement une petite haie gourmande.
Voilà ce que j'allais dire. Hein. Parce que nous on est gourmands, on aimerait bien avoir à manger.
Exactement. Alors l'origine des haies, ça remonte quand même au Moyen-Âge, probablement à cette période-là, notamment dans le but de délimiter des parcelles. Vers le XVIIe siècle. Donc ça a été très marqué au XVIIe siècle.
Plutôt pour les animaux, pour empêcher les vaches de s'échapper ou les moutons, non ?
Même pas. Pas forcément, vraiment marquer des limites de propriété et puis délimiter des parcelles cultivées qu'on appelait à l'époque des haies bocagères, qui existent toujours d'ailleurs. Mmh,
pas beaucoup, mais il y en a.
Mmh. Oui, il en reste quelques-unes. Donc les haies, c'est quand même très utile. Ça permet de réguler le climat, notamment le vent. Pour les gens qui sont exposés au vent, de réguler aussi l'aspect un peu hydraulique. Donc ça va quand même puiser les ressources en eau du sol. Donc ça va nous permettre d'éviter d'avoir des inondations, notamment. Conserver les sols. Donc d'avoir du coup une vie microbienne assez riche. Des plantes qui vont puiser aussi des ressources et qui vont restituer en échange. De maintenir des équilibres entre les espèces. D'avoir une production, donc que ce soit de bois, de feuillage, de broyat ou même de fruits, et d'améliorer aussi notre cadre de vie.
Et qu'est-ce qu'on peut répondre aux gens qui disent « Ouais, mais une haie, c'est de l'entretien, il faut tout le temps tailler, patati, patin-couffin ».
Voilà. Alors, non, il ne faut pas tailler tout le temps. L'entretien, déjà, si vous paillez, vous n'avez pas à désherber entre les plants. Arroser, il n'y a pas besoin de tellement arroser. Et pour la taille, c'est environ une fois par an. En fait, il n'y a pas besoin de s'acharner à tailler les haies. En fait,
Dépend ce qu'on a choisi de mettre dans sa haie, mais j'espère que, je suppose que tu vas venir nous conseiller sur les espèces à mettre dans sa haie.
Ouais, tout à fait.
Ou à ne pas mettre.
Exactement. Ouais. Exactement. et donc, du coup, moi, j'éviterai autant que possible l'utilisation du taille-haie.
Ah bah oui. Ça fait du bruit.
Ça fait du bruit et puis c'est pas hyper, hyper bon pour les plantes. Ça a plutôt tendance à arracher les plantes, ça les coupe pas au bon endroit. Et dernière chose sur la taille, on évite de tailler, on évite au maximum de tailler au printemps, donc du mois de mars au mois de juillet.
Donc là c'est le moment, si on veut tailler sa haie qu'on a déjà plantée, on peut le faire maintenant.
Ah oui, tout à fait.
Bon,
ouais,
éventuellement. Fait. Et alors, qu'est-ce qu'on met comme espèce qui ne pousse pas trop vite, qui sont intéressantes
Pour un spectacle coloré un peu toute l'année, vous pouvez mettre du cornouiller, de l'hibiscus, de l'oranger du Mexique. Vous pouvez mettre de la véronique aussi, le mahonia qui va fleurir fin d'automne, tout début d'hiver, du groseillier à fleurs. Et puis, j'ai noté un rosier arbustif qu'on pouvait tout à fait planter. Et donc, du coup, celle-là, elle ne demande pas forcément d'être taillée beaucoup.
Ça fait des couleurs de feuilles différentes, des feuillages, des fleurs différentes.
Tout à fait, et des périodes de floraison différentes. Par exemple, le groseillier va avoir un feuillage un peu pourpre là maintenant. Enfin, là, on a dépassé la date, mais il y a quelques mois, quelques semaines. Et au printemps, on vous donne des super grappes roses. C'est très, très beau. Le cornouiller, alors, on va avoir une production de bois très rouge ou jaune en hiver, donc c'est vraiment magnifique. Et puis les gens qui font de l'art floral, ça les réjouit, avec un feuillage assez chouette, vert classique. L'hibiscus, bah, qui est aussi une plante caduque, mais qui va nous faire des magnifiques fleurs roses, bleues ou blanches fin de printemps. Et puis l'oranger du Mexique, qui va rester vert toute l'année, qui a une très jolie odeur, qui est très agréable, et qui va fleurir plusieurs fois dans l'année. Donc c'est très chouette. La Véronique qu'on peut rajouter là-dedans, juste pour vous. Où on a un panel de floraison qui est assez large, avec des roses, des fuchsias, des bleus et des blancs, qui est aussi une plante persistante.
Elle fleurit en ce moment d'ailleurs.
Ça fleurit à peu près 8 mois de l'année, la Véronique. Donc c'est quand même une plante assez chouette, ça attire les pollinisateurs et c'est toujours très sympa.
Bon, qu'est-ce qu'on ne plante pas, juste vite fait? Qu'est-ce qu'on évite de mettre dans sa haie?
Eh bien, on va éviter de planter un Eleagnus.
Ah oui, bah oui.
Malgré le fait que ce soit une plante qui produise des baies comestibles, ça reste une plante qui est un peu astringente pour les gens qui ont des problèmes au niveau des bronches. Et que quand on taille, ça a tendance un peu
Ça fait tousser, c'est clair.
En fait, il faut tailler ça par temps humide. Et les gens qui ont des...
tellement vite, quoi. Ouais. Ça sent très bon, les fleurs sentent très bon, mais alors ça pousse à une allure, c'est infernal.
Ouais,
quoi.
Tout à fait. On va éviter de planter du berbéris aussi, l'épine vinette. C'est plus tellement à la mode. C'est un très joli feuillage, une très jolie floraison, mais ça pousse très vite et c'est super piquant.
Les Legnus aussi. Hein.
Ouais, tout à fait. Et on va éviter le Piracanta, qui est une plante qui est de la variété des rosiers aussi, qui pousse très vite, qui fait des très longues tiges, hyper piquantes, mais par contre qui est très jolie en floraison. Et moi, j'aurais tendance aussi à éviter de mettre de l'Escalonia, qui vieillit de plus en plus mal avec les sécheresses qu'on va avoir à répétition dans les années à venir.
Et on arrête avec les lauriers aussi.
Les lauriers palmes.
Trop vite, bah ouais,
les lauriers palmes. J'y ai même pas. Ouais, les lauriers.
Il n'en est même pas question.
Même pas. Ouais, je n'ai même pas évoqué, mais c'est vrai qu'on évite. Et les thuyas aussi.
Ah oui, quelle horreur.
Mais en fait, on évite les haies monospécifiques. Une seule espèce. Okay. C'est pas très bon pour la biodiversité, c'est pas très bon pour le sol et c'est pas très bon pour le paysage qu'on peut avoir. Ça n'existe pas dans la nature des endroits où on a une seule plante qui pousse en ligne. Et en plus, s'il y a une maladie, tous les plants ramassent. Quoi.
Par exemple, le buis, alors c'est super, le buis, ça pousse pas trop vite et tout, mais il faut le surveiller avec la pyrale.
Oui, avec la pyrale, ouais.
Bon, merci Marie. On va s'arrêter là, mais c'est pas grave, s'il faut faire une autre chronique sur les haies, ça sera la semaine prochaine.
Merci.
Merci beaucoup. Et on va rentrer au show avec Christophe. On va regarder des films, et on va manger en même temps.
Oui, alors moi, cette semaine, je vous ai concocté un petit menu spécial film d'animation.
Ah ben voilà.
C'est un peu le moment, c'est Noël, les films d'animation sont de sortie. Alors en entrée, c'est Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, de Gintz Zilbalodis. Flo, c'est un félin, un héros à moustache, un personnage attachant à souhait. Il nous entraîne dans une aventure aquatique digne des plus grands explorateurs à quatre pattes. Hein. On se prend d'affection pour lui dès les premières minutes et on le suit avec passion dans toutes ses aventures. L'animation est à tomber par terre et chaque plan est une petite merveille. Les couleurs sont chatoyantes, le décor époustouflant. Il y a tant d'énergie qui se dégage dans le film qu'on se dirait dans un Miyazaki, mais sous amphétamine. Bref, Flo, c'est une véritable bouffée d'air frais dans un paysage. Dans le paysage de l'animation. On a envie de plonger la tête la première dans l'écran en miaulant de plaisir.
Ah, c'est beau.
Ça donne envie. Hein.
Alors, on est gâtés. En plat de résistance, alors, ça sera peut-être moins gai.
C'est un peu moins gai, mais c'est très joli aussi. C'est La plus précieuse des marchandises. C'est le nouveau film de Michel Hazanavicius qui a troqué sa caméra pour un crayon. Le résultat est aussi surprenant que touchant. Le réalisateur de The Artist nous offre un conte d'hiver aussi doux qu'une couverture polaire. Sympa. On saluera la beauté de l'animation qui transforme un récit de la Shoah en une fable onirique, en un conte de fées des Grimm revisité par Tim Burton, mais en moins gothique. D'accord ? Les personnages, eux, sont aussi attachants qu'une tasse de chocolat chaud par une journée de grand froid. Donc on a envie. Le couple de bûcherons, malgré des épreuves, incarne une résilience à toute épreuve. on aurait presque envie d'adopter le petit paquet tombé du train et de lui offrir une bonne soupe. En bref, La plus précieuse des marchandises est un film qui réchauffe le cœur en ces temps difficiles. Alors enfilez vos moufles, prenez votre boisson chaude préférée et laissez-vous emporter par cette histoire aussi belle que bouleversante. Mais attention, préparez vos mouchoirs.
Mmh. Il sait tout faire. Ouais, il sait tout faire, ce Michel Hazanavicius, ouais. Décidément. Et on est gâté en film d'animation, puisqu'il y en a encore un.
Il y en a encore un pour l'instant. Au dessert, ce sera Mirai, ma petite sœur. Alors, c'est un bijou réalisé par Mamoru Osada. C'est le génie qui est derrière Les Enfants Loups. C'est le genre de film qui vous fait envie de voir la vie en rose, ou plutôt en bleu, en vert et en jaune, qui sont les couleurs chatoyantes du film. On y suit les aventures de Kun, un petit garçon qui voit son monde bouleversé par l'arrivée de sa petite sœur, Mirai. Entre jalousie et tendresse, Kun va vivre une aventure rocambolesque à travers le temps, croisant des ancêtres aussi loufoques les uns que les autres. C'est décalé. On rit devant les gags visuels et les répliques cinglantes des personnages. L'animation est tout simplement sublime. Chaque image est un tableau, chaque mouvement une poésie. C'est une sorte de rêve éveillé qui fait du bien. Bon. Et on peut le voir en ce moment, on pourra le voir le 11 décembre à 14h à Quimper, dans le cadre de Cinéphilo. Et la projection est suivie d'un échange avec David Poulain, qui est professeur de philosophie, d'humanité et de cinéma. Donc on pourra échanger avec lui.
Ah bah oui, bah parfait, merci Christophe. Donc ça, c'était pour les trois conseils, les nouveautés,
les
c'est
nouveautés,
ça
ouais, et donc pour la séquence voilà. Ciné-bouffe, alors moi, puisqu'on est dans l'animation, je ne pouvais pas m'empêcher de passer par les studios Ghibli.
Un classique.
Ouais, c'est un classique, ça se regarde. Pour moi, ça ne regarde que moi, mais s'il y a une chose qui fait rêver dans les films de Miyazaki, ce sont les nombreuses scènes culinaires. Et franchement, le réalisme, ça fait saliver. Quoi.
Le Japon.
Ah, c'est le Japon et la cuisine japonaise. Alors j'ai choisi une scène de Princesse Mononoke, un film d'animation. C'est vraiment le classique du genre, où les animaux parlent, les dieux font des caprices et où les humains se prennent pour le centre du monde. Un cocktail détonnant qui vous fera rire, pleurer et réfléchir sur notre place dans la nature. Le pitch, Ashitaya, le héros du film, se retrouve au milieu d'une guerre des clans, pas comme les autres. Des dieux en colère, des forêts qui brûlent, des combats épiques et une princesse Anne dit Mononoke, au caractère pas facile à gérer. Un vrai bordel quoi pour lui. Au cours de son périple, Ashitaya rencontre Jiko, un moine errant avec qui il partage une bonne soupe au caillou.
Tu dis que tu es victime d'un maléfice. C'est ce monde qui est maléfique. J'ai eu tort de livrer bataille dans ce village. Deux hommes sont morts par ma faute.
C'était des bandits. Si tu ne les avais pas tués, c'est moi qui l'aurais fait. Passe-moi ton bol. Il faut manger. On meurt tous un jour, petit. Qu'on soit mendiant ou empereur. Oh, quel bol raffiné. Tu es plein de surprises, mon garçon, comme cet élan rouge que tu chevauches et ces flèches au silex dans ton carquois. Ça me fait penser à cette ancienne tribu dont parlent les livres. Les Emishi que l'empereur a massacrés jusqu'au dernier, enfin c'est ce qu'on dit. N'aie pas peur, je ne dévoilerai ton secret à personne. Oui, j'ai d'autres tigres à fouetter, ils sont plus gros que toi. Allez, mange chérie, après tout, c'est toi qui l'as payé.
Oui, ça se termine un petit peu brutalement.
C'est un peu brutalement, mais on aurait pu écouter tout le film. Hein, c'est agréable avec cette petite musique
vrai,
un petit peu.
Ouais. C'est vrai.
Alors, la soupe au caillou, alors je précise, c'est en un seul mot, hein, au caillou.
Ah,
c'est
oui.
Pas au caillou.
Oui, non, mais bien
parce
sûr.
Que dans la cuisine française, on avait une soupe de corbeau au caillou, mais ça, c'est encore autre chose. Au caillou, ça s'écrit O-K-A-Y-U. C'est une soupe de riz assaisonnée de miso. Le miso, c'est la pâte de soja, quoi. Mmh. C'est un plat qui aurait des vertus un peu magiques et qu'on donne souvent aux malades ou aux enfants. Voilà. Alors, pour ça, je vous explique, on fait bouillir 2 litres d'eau dans une casserole. Dans le même temps, on fait chauffer une poêle et on fait cuire une petite omelette avec un œuf. Cette omelette, on la roule, on la découpe en petits morceaux et on retourne au problème de l'eau. L'eau, quand elle commence à bouillir, on ajoute 1 cube de poulet, 2 cuillères à café de fécule de maïs prédilué, 3 œufs battus et 1 cuillère à soupe de pâte de soja, c'est le fameux miso, qu'on émiette bien pour qu'elle soit bien, que ça fonde plus facilement. Quoi. La pâte de soja, si on veut, on peut la remplacer par de la sauce de soja, mais ça ne devient plus une recette sans gluten. Alors que là, on était parti sur une recette sans gluten pour les amateurs de recettes sans gluten. Voilà, dans une autre casserole, on fait cuire le riz, 60 g de riz pendant 15 minutes. Lorsqu'il est prêt, on verse la soupe et on laisse mijoter un petit moment, jusqu'à qu'elle sorte. Une espèce de bouillie qui se forme dedans.
Ouais, ça fait le une riz petite n'est soupe. Plus sous forme
voilà,
de riz.
Ça fait presque une bouillie comme une petite pâte. Et... Mmh. Mais pas trop collant quand même, parce que c'est horrible sinon. Alors, on verse la soupe dans un bol, on ajoute l'omelette qui est coupée en rondelles, on garnit avec un peu de coriandre, une pincée de poivre, une pincée d'oignon frit. Et pour lui donner plus de saveur, on peut ajouter des œufs de saumon, des prunes séchées. Alors, tout le monde n'aime pas les umeboshi.
Les prunes salées.
Séchées et salées, ouais, ces fameux umeboshi. Mmh. Ou encore un petit peu de ciboulette sur la fin. Voilà. Mmh. Si on veut s'inspirer des films de Miyazaki, il y a plein de bouquins qui sont sortis sur toutes les histoires les recettes pardon du studio Ghibli. Waouh.
Merci Christophe.
Bon appétit.
Au caillou. On va dire ça comme ça, ça sera plus simple. Et on va continuer avec Marine Chanourny qui a très faim et qui nous emmène vers des spectacles vivants toujours. Hein. Toujours mais cette fois c'est vraiment pour le plus jeune âge.
Pour le plus jeune âge, mais pas que, pour les petits et pour les grands. Aujourd'hui, 26 novembre, s'ouvre la 23e édition du festival Théâtre à tout âge, Tata, organisé et coordonné par Tréteau Théâtre. Le festival Tata, c'est l'un des rendez-vous incontournables de la création jeune public en France. Pendant un mois, 15 spectacles, dont 12 créations, seront proposés dans 31 communes du nord au sud du Finistère. 9 spectacles seront même en tournée dans le département. Au total, ce sont 130 représentations qui auront lieu du 26 novembre au 21 décembre sur les 31 communes partenaires. Je ne peux pas toutes les citer. On peut penser à Plouguerneau, Morlaix, Brest-Crozon, Briec-Quimper, Fouesnant, Tréguin-Quimperlé. La carte est sur le site de Tréteau Théâtre. Cette dynamique du réseau entre Tréteau Théâtre et les partenaires du département permet à des milliers de familles, de scolaires, de centres de loisirs et de structures petite enfance du Finistère d'avoir accès au spectacle. Tata, c'est un festival qui va à la rencontre du public.
Il y a déjà un certain âge. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la programmation de cette édition? C'est la quantième d'ailleurs, cette édition?
C'est la 23e édition.
Ouais, c'est ça.
Alors une petite idée de la programmation. Théâtre, musique, danse, marionnette, cirque, théâtre d'objets, contes. Ce festival, c'est du théâtre, mais pas seulement. Le festival soutient et fait découvrir d'autres disciplines phares du répertoire jeune public. On y découvre des artistes d'ici et d'ailleurs et on y retrouve aussi des artistes qui ont tissé un compagnonnage au long cours avec Tréteau Théâtre et le festival. Impossible de parler ici de tous les spectacles. Je vous renvoie encore une fois au site internet de Tréteau Théâtre. J'ai envie de vous parler du spectacle « À l'attention des poissons », odyssée musicale créée par Hugues Germain. Hugues Germain, c'est un artiste brestois, plasticien sonore, touche à tout du son qui crée des univers sonores pour le spectacle vivant, mais aussi pour des expos ou des espaces publics, et encore bien d'autres lieux.
Et puis c'est parfait pour la radio, un artiste.
Et c'est
aussi
parfait pour la radio. À l'attention des poissons, c'est l'histoire de Michel, un docker solitaire et inventif, qui, témoin d'une expérience malheureuse pour les poissons, a l'idée de leur signaler les dangers qu'ils encourent dans les ports. Je vous propose un avant-goût de l'immersion qui vous attend avec un extrait sonore du teaser du spectacle.
La mer. La mer, moi, je suis tombé dedans tout gosse. De jour comme de nuit, je charge et je décharge des bateaux du monde entier. Après le boulot, je marche sur les quais pour regarder les poissons nager. Mais les bateaux les percutent sans arrêt. Paf ! Embrochés. Faut que je dise aux poissons les trajets à éviter.
C'est une carte pour vous, les poissons. Pointillé égale danger. Sushi, prends d'âne. Ouais, c'est ça, oui, par là.
Ah, la joie. Deux poissons sauvés. J'ai acheté un conteneur rouillé pour une poignée de moules. J'en ai fait un vrai bateau que j'ai mis à l'eau une nuit quand tout le monde dormait. Les courants me faisaient longer la côte. Avec ma carte qui dansait dans les vagues, je cherchais la meilleure façon de parler poisson.
23 avril, détroit de Gibraltar. Pas envie de rentrer.
Ah,
La Méditerranée, c'est archi pollué.
12 août, Pacifique Nord, hauteur San Francisco, typhon.
Allô, Michel.
Alors, comment est-ce qu'on peut parler poisson marine ? Qui a un prénom qui va bien quand même.
Exactement. À l'attention des poissons, c'est un spectacle tout public dès 8 ans. Cette création tout juste née dans le département sera présentée à Briac à l'Artémuse les 14 décembre et 17 décembre dans le cadre du festival Tatam.
On ne sait pas déjà complet, comment est-ce qu'on fait pour...
J'ai bien peur que ce soit déjà complet, mais renseignez-vous quand même au cas où, il faut toujours la tenter.
Comment est-ce qu'on fait pour réserver ses places pour ce merveilleux festival théâtre à tout âge ?
Alors pour ce merveilleux festival, allez sur le site internet de Tréteau Théâtre. Sur la page du festival Tata, vous avez la liste des spectacles, vous pouvez cliquer sur celui qui vous intéresse et vous obtenez toutes les informations sur ce spectacle. Il y a même parfois des teasers et les modalités de réservation. Attention, Tréteau Théâtre ne se charge pas de la billetterie de l'ensemble du festival, seulement celle des spectacles dont elle assure l'organisation. Pour les réservations, il faut voir directement avec les structures qui accueillent le spectacle, mais tout est très très bien indiqué sur le fabuleux site internet de Tréteau Théâtre.
Eh bien, merci Marine, merci les amis. Les Marottes du mardi, c'est terminé. Dans l'M de mercredi, c'est Pierre-Yves qui est aux commandes et je vous retrouve jeudi avec la tempête Kiaran, un an après, chez les agricultrices et agriculteurs bio.